Nous sommes le lundi 26 novembre et vous écoutez le 37e épisode Phase B de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous présente les jeux de société sur table et sur écran.
Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueurs, salut les joueuses, salut Olivier.
Salut Jérémy.
Salut Thomas.
Salut Jérémy.
Salut Thomas.
Salut Olivier.
Salut Jérémy. Ça va ?
Ça va.
Depuis la semaine dernière ?
Ah bah depuis, oui, c'est 5 minutes.
Donc, une phase B, des jeux expliqués en profondeur, un petit peu, on va prendre notre temps. Et aujourd'hui, au moins 3 jeux sur table. Donc String Railways, un jeu de train avec des ficelles, Terra Mystica, Love Letters, et puis sur iPhone, iPad, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, Kin, ou Xin, ou Shin.
Pour ceux qui suivent. On ne sait toujours pas, en fait.
Voilà. Bah, on dira Kin, parce qu'on ne va pas le dire à chaque fois.
Et puis voilà. Donc on commence par...
String Railway. Donc String Railway, c'est un jeu de construction de réseau de train. On en avait parlé un petit peu parce qu'Olivier avait ramené un Paperclip Railway qui tenait après, qui jouait avec des trombones.
Ouais, c'est cool.
Mais celui-là, comme son nom l'indique, si vous pratiquez un peu l'anglais, String Railway se joue avec des cordes.
Avec des strings.
Des strings, exactement. Avec des ficelles. Alors qui sont toutes mignonnes, qui sont toutes les couleurs. Le principe, c'est qu'on va définir un plateau carré avec une grande... À plus ou moins carré.
Le plateau, en fait, la forme du plateau varie oui. Selon le nombre de joueurs.
On va considérer qu'on joue à 4, c'est le format de départ.
Non, moi j'aime bien cette exactitude. Je vais peut-être le prendre en complet.
Non, mais moi j'essaie de faire une explication du jeu en 2 minutes, mais avec vous, j'aurais pas dû.
Vas-y.
Donc on va dire un plateau carré parce qu'on est 4 joueurs. Les joueurs commencent chacun un coin avec leur gare centrale. Et le but, c'est qu'ils vont devoir rallier le maximum de gares pour faire un maximum de points. Le principe, c'est qu'au début de son tour, on pioche une gare de la pioche et on doit la placer quelque part sur la table. Et ensuite, on va construire son réseau. Donc, les joueurs disposent de 5 ficelles parce que la partie dure 5 tours. 4 ficelles courtes, entre guillemets, qui font une trentaine de centimètres. Et puis, une plus longue qui va faire le double ou au moins 50 centimètres.
Fais voir ta ficelle courte.
Il va la mesurer.
D'accord, ok.
C'est validé.
Oui, et voilà. Et donc, la longue... Donc, on va poser la ficelle.
C'est beau à voir.
On est complètement asynchrone, c'est ça qui est bon.
On va poser. Les règles de pose de ficelle sont simples. Il faut qu'une des extrémités parte d'une gare où on est déjà présent, donc au départ la gare centrale, et que la deuxième extrémité, c'est pareil, s'arrête dans une gare qui est sur le plateau.
Ça joue à New York ? Il y a la grande gare centrale ?
Ça pourrait, oui, je sais pas, le thème. Moi j'ai la version, on y viendra après. J'ai une version collector. Et c'est comme ça.
Exactement.
Non, mais du coup, pour dire que je ne connais pas la version normale, comment c'est présenté. La ficelle, donc les deux extrémités sur des gares, et le reste, on peut la tordre dans tous les sens comme on veut. Elle peut traverser d'autres gares, sans problème. Et chaque gare traversée ou rejointe rapporte des points de victoire en fonction de ses écrits. Si la ficelle passe par-dessus d'autres ficelles, alors ça peut être les ficelles posées par les autres joueurs, ou bien aussi en début de partie, on en place 2-3 autres pour faire un plateau un petit peu.
On place une montagne et une rivière. Différent.
Voilà, une montagne et une rivière. Donc dans ces cas-là, c'est moins un point.
Ouais, exactement comme dans Paperclip Railways.
Oui, je pense que Paperclip a repris.
Parce que ce système de malus.
String Railways est sorti à l'origine en 2010.
Oui, donc avant Paperclip Railways.
La suite du concept du jeu, c'est que en fait, il y a différents types de gares. Il y a les gares terminus, donc on peut pas les traverser, on peut pas mettre sa ficelle par-dessus. Il faut forcément s'arrêter dessus. Il y a des gares où en fait, on va marquer un maximum de points, mais chaque fois qu'un adversaire va passer dedans, on va devoir donner un point. Voilà, tout plein de règles différentes sur les gares qui vont varier un petit peu la construction du plateau. C'est ce qui fait d'ailleurs que les parties vont se renouveler. Les parties sont rapides. Moi, j'y joue même pas une 20 minutes, hein,
oui,
je pense.
À peu près, ouais.
Parce qu'il n'y a que 5 tours, donc ça va vite. On pioche une gare, on la pose ouais. Et on pose sa ficelle.
Et c'est très vite installé aussi.
Voilà, le jeu est vite installé. La règle, de toute façon, peut être vite expliquée également. Donc ça, c'est tous les côtés positifs du jeu. Après, il se renouvelle suffisamment, moi je trouve, parce qu'on va toujours poser... En fonction des gares qu'on pioche, on ne va pas les poser de la même manière. C'est une gare où il y en a où il va falloir qu'on attire le maximum de joueurs. D'autres, au contraire, il va falloir qu'il y en ait moins qui viennent. On va aussi essayer de barrer la route aux joueurs parce que s'ils viennent dans notre gare centrale, on va perdre des points.
C'est vrai qu'il y a une grosse dimension blocage quand même sur le plateau. On va essayer de faire des méandres, des circonvolutions pour gêner au maximum les autres.
Voilà. Par contre, si on se croise dans les gares, il n'y a pas de problème.
Là, c'est le seul endroit où c'est autorisé à se croiser sans avoir de malus. Voilà. Et donc, on va essayer de maximiser ça, de chercher automatiquement à se croiser dans les gares.
Voilà. Donc il y a des premières parties qui vont être plutôt faciles, on va dire, où justement les gens vont pas forcément se bloquer, mais au bout de 2-3 parties, le concept de justement de bien tourner, de bien bloquer va prendre, et là ça va être...
Ouais. Et en fait il faut arriver à occuper un maximum d'espace au sein du périmètre déterminé par les limites du jeu. Et le truc qui est intéressant justement, c'est qu'il y a certaines gares qui ont un nombre de connexions qui est limité.
Ah oui, j'en ai pas parlé.
Deux, trois compagnies ferroviaires différentes. Et du coup, ça va être une course en fait pour connecter ces gares-là avant les autres.
Oui, il y en a, c'est que deux, par exemple, deux compagnies, exemple, donc c'est très court. Donc ça, voilà. Après, par contre, donc moi, enfin, c'est un jeu que j'aime beaucoup. On verra, je le recommande pour son côté jouable en famille, simple, tout est pour tous ces aspects-là. Il a quand même pas mal de défis, il a aussi quand même des défauts.
Il est pas très beau. Alors moi, toi, t'as la version collector, donc...
Ouais, la version normale, c'est vrai qu'elle est pas super belle. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une version collector, donc illustrée par Franck Dion, donc avec un thème complètement différent au niveau illustration, au niveau de... On construit des voies dans les nuages. Donc,
ouais, il y a un petit côté steampunk, je trouve.
La côté thématique est vraiment différente. Donc ça c'est agréable. Donc bon, sinon il est pas forcément très beau. C'est surtout au niveau de la règle que moi j'ai, la première fois que j'ai lu, je me suis dit c'est pas possible, ça manque de précision. Au début je savais pas, la règle ne dit jamais si quand on pose sa ficelle on a le droit de traverser des gares qui sont déjà sur le plateau. Ouais. Tel que c'est expliqué, on a l'impression que ça l'est pas. Donc j'étais allé voir la règle originale du jeu, enfin la traduction de la version originale japonaise du jeu, pour m'apercevoir qu'en fait en gros la version de la règle actuelle c'est ni plus ni moins la même qu'il y a 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'Asmodée n'a pas vraiment retravaillé cet aspect règle.
Mais tu parles japonais ?
Non, je parle pas japonais, mais elle avait été retraduite. Enfin, je veux dire, j'ai comparé, et globalement, c'est quasiment la même règle. Donc ces petites précisions de règles-là, à mon avis, avec quelques parties de test avec des joueurs qui ne connaissaient pas le jeu, ces écueils-là auraient été levés et auraient pu être corrigés. Donc c'est dommage, bah ouais, mais ça pénalise la première partie.
Il y a peut-être une fac qui sortira d'ici quelques temps.
Là, j'ai regardé, pour l'instant, non, mais effectivement, je pense qu'ils vont la faire. Enfin, ça pénalise le jeu, puisque je dis que c'est un jeu familial, ou même ça pourrait être un jeu pour des non-joueurs. Ou en tout cas...
Ah oui, c'est tout à fait un jeu qui se prête bien avec des non-joueurs. Ouais.
Mais la règle ne se prête pas du tout pour des gens qui découvriraient le jeu, malheureusement.
Ouais, donc il faut se faire expliquer.
Et au défaut, c'est l'iconographie. C'est pareil, ils ont repris le jeu de base, et le problème c'est que bah, des fois c'est un petit peu compliqué les icônes qu'ils ont faites, parce qu'il y a des notions où des fois les gares, c'est le premier qui vient, il marque plus de points que les suivants qui viennent, mais pas toutes les gares, mais ils ont quand même toujours laissé les deux systèmes de score,
un rond plutôt plein blanc et un rond noir.
Ça c'était la version originale. Ouais. Après, là, ils ont fait. Moi,
on va quand même parler de la version originale, parce que quand même, il y a plus de chances que les gens achètent.
Non, mais c'est la version originale. Non, mais je disais, c'est la version japonaise. Je sais pas si la version.
Non, là, c'est la version.
Nouvelle version.
La version japonaise avait déjà la même iconographie que la version standard.
C'est ça, mais ils auraient pu, j'estime. Enfin, le jeu, ils ont mis il y a eu 2 ans.
Ça a été long à développer.
Ouais, il aurait pu être. Je m'attendais à ça là-dessus. Donc, c'est pour moi les deux points qui bloquent un petit peu les premières parties. Après, c'est pareil, une fois qu'on a... Il faut juste que les joueurs qui se procureront la règle et qui ne comprendront pas bien puissent aller, pensent à aller sur Internet et chercher un peu pour retrouver...
Et du coup, pour les scores, comment ça marche ? Il y a des petits jetons, je vois, dans la boîte ?
Ouais, quand tu marques des points, tu prends des jetons.
D'accord.
Des petits jetons en carton, tout bête.
Ouais, c'est mieux que la feuille de score.
Ouais, il y avait un truc un peu cheap dans la version originale où c'était un plateau qui était plié en deux, plastifié. Enfin, ça faisait un petit peu artisanal où t'avançais ton petit pion dessus.
Ah bah oui, c'est des jeux...
C'est dans quelle version ça ? La version originale japonaise ?
Japan Brand, la version originale.
Ouais. Ah, mais c'est Japan Brand, c'est typique.
Ah ouais.
Voilà, pour moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu de train, un jeu de réseau, avec en 10 minutes seulement. Enfin, 10-20 minutes. Mais
jeu de train en 20 minutes, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est bien. Et puis on voit vraiment les réseaux. Enfin, les ficelles représentent bien les réseaux. C'est suffisamment novateur parce que quand on construit son réseau, c'est pas à la Edge of Steam où il faut calculer comment on va rentabiliser. Voilà. Là, on pose sa ficelle, on va juste essayer de la faire zigzaguer. La seule gestion qu'il va y avoir, c'est savoir quand est-ce qu'on joue la grande ficelle par rapport aux petites.
Et s'adapter quand même aux gardes qu'on va piocher, effectivement. Et je trouve qu'en tant qu'amateur de jeu de train, on peut quand même y trouver un intérêt. C'est suffisamment original pour valoir le détour.
Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a le hasard de la pioche quand même qui peut des fois faire la différence.
Après, sur un jeu de 15-20 minutes,
oui, c'est ça, c'est pas...
c'est tolérable.
C'est pas grave. C'est pas pareil qu'un jeu de 3 heures.
Tu conseilles ?
Ouais, moi je conseille. Bah oui, je conseille parce que j'y joue avec mes enfants, donc de 6 et 8.
Donc 6 et 8, ça veut dire que pour le commun des mortels, c'est 8 et 10.
Oui, plutôt. Ouais, parce que. Et 8, enfin, ma fille qui a 6 ans, je l'aide un petit peu pour l'instant quand même parce que. Elle va... Non, mais c'est normal, on est en phase d'apprentissage, faut apprendre les coups tordus qu'on peut faire, il faut montrer.
Et à noter quand même
qu'ils sont à la bonne école.
Apprenez les coups tordus à vos enfants.
Envoyez en vacances chez Jérémy.
On apprend le jeu.
Et oui, donc à noter quand même qu'il y a une dose de mauvaise foi dans le jeu, dans le sens où quand le plateau est vide au début, il va se remplir au fur et à mesure, on va installer les ficelles, et en se faisant, on va croiser des fois d'autres rails, et ça va bouger un petit peu.
Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais des fois ça bouge, toi avec les enfants, ça va avoir tendance à bouger.
Et du coup, là, soit on la joue fair play, on remet, enfin, je peux dire un rollback, parce que je vais me faire disputer, on revient un coup en arrière, soit on la joue pas vu, pas pris.
Ah, carrément. Non, nous on remet effectivement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant quand les ficelles ont tendance à s'entasser les unes sur les autres.
Ouais, ça bouge.
On a vite fait de les embarquer, surtout actuellement en hiver. En tout cas, on a joué avec des pulls. Ce qui a.
Quoi ?
On joue avec des pulls, on a plus tendance encore à accrocher.
Des pulls en LED ?
C'est pull railways.
Ouais, parce que tu. Voilà. Tu peux mettre, tu verras, avec ton pull en LED. Non, mais pas comme ça.
Le vert ne s'accorde pas avec le mauve de mon pull.
Si ton pull passe dessus, parce que.
Non, mais c'est crétin, non, ce que t'es en train
pas.
De faire.
Ça marche
faire.
Pas, là. On dirait Bonaldi, en fait, ça marche pas du tout.
Mais bref, chez nous, il y a un peu le problème.
Bon, alors moi, j'ai quand même une petite récrimination à faire sur ce jeu. D'abord, la version collector est superbe. La version de Franck Dion est superbe. Je vais te la piquer.
Non.
Et la version String Railways de Asmodee est pas top. Ça me fait penser à Trends de Japan Band. Donc, la preuve qu'ils ont repompé tout sur Japan Band et qu'ils ne sont pas fait. Et moi, ce qui me stresse un petit peu, c'est la taille de la boîte. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire une boîte un peu plus classique.
Ah, c'est pas du standard, c'est sûr.
Alors ouais, c'est une boîte rectangulaire.
Et comment tu la ranges, la boîte ? Alors c'est cool. Pour offrir, c'est formidable.
Enfin, c'est un joli paquet. Ouais.
Mais voilà. Quoi.
Non, alors il y a un côté pratique, c'est que au moins la boîte, une fois que le matériel est rangé dedans, il y a pas de place perdue, quoi. Contrairement des fois à des grosses boîtes carrées. Mmh. Donc ça, c'est l'avantage. Par contre, effectivement, c'est une boîte, là, j'ai pas d'autre boîte qui a ce format-là, donc je la range là où je peux.
Au-dessus
mais comme elle
autres.
Est petite, ouais, mais comme elle est petite, tu peux quand même la glisser à peu près un peu partout.
Hein, ouais. Entre deux grosses boîtes.
Mais oui,
boîtes,
entre des piles de boîtes, tu peux la glisser quelque part.
Ça cale l'étagère.
Ouais, presque, après, elle s'abîme. Donc, String Railway, c'est un jeu de Hisashi Hayashi.
Chez nous, la fin avec un petit peu plus de japonais dedans.
Non, parce que je sais pas du tout. Et
d'accord.
Je
croyais que tu parlais japonais.
Non, moi non.
D'accord.
Italien si tu veux un jour, mais non, pas japonais. Plus tard, on sait jamais. Donc, Hisashi, donc c'est un jeu String Railway, c'est un jeu de Hisashi Hayashi chez Asmodee pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour 30 minutes environ, et le prix c'est une vingtaine d'euros.
Et Thomas n'est pas venu chez nous. Juste pour parler de train, il est aussi venu nous parler de Terra Mystica, puisque c'est fait partie de ces Happy Few, ces quelques joyeux, c'est comme ça qu'on dit, qui ont pu mettre la main sur Terra Mystica lors du dernier Salon d'Essen.
Et ouais, effectivement.
Alors parle dans ton micro et on t'écoute. Ouais.
Oui, effectivement.
Tourne-le un peu si tu regardes par là-bas.
Comme ça. Voilà, donc j'ai pu ramener une des boîtes qui n'a pas été réclamée. C'était le samedi sur le salon. Il fourguait les précommandes. Enfin, il distribuait les précommandes. On a fait la queue. On était une vingtaine de personnes et c'était limité à une boîte par personne. Mais cette fois, pas un souci vu que le jeu a été annoncé chez Philosophia et Z-Man pour le début de l'année 2013. Donc, Terra Mystica, c'est quoi ? C'est un jeu de. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher les noms des auteurs, de Jens Drogmuller et Helge Ostertag.
Ils ne sont pas écorchés du tout, là, c'est bon.
Les pauvres, de toute façon, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils écoutent, donc ce n'est pas grave.
Comment ça,
il maîtrise la langue française.
Et sachant qu'il y a Uwe Rosenberg qui a participé au travail de création du jeu.
Le papa d'Agricola, le papa de Bonanza.
Et du Havre. Et d'Aura Elabora et de plein d'autres.
Oula.
Oula. Enfin, voilà, donc ça se ressent aussi un petit peu. Donc c'est un jeu de développement, c'est un jeu, un Eurogame comme on appelle, un jeu de gestion et développement à l'allemande. Il n'y a pas d'interaction, pas d'affrontement direct, c'est que de la gestion.
Ouh, ça commence mal, hein.
Non, je sais pas si c'est de l'interaction directe, parce que général, on dit trop facilement qu'il n'y a pas d'interaction, alors
je fais confiance à Thomas.
Il y a beaucoup d'interactions, c'est une grosse part du jeu, il faut constamment surveiller ses adversaires, mais à aucun moment on a des troupes sur le plateau ou des choses comme ça, en fait.
Ah oui.
On va jamais aller voler des ressources chez les adversaires, etc.
Il faut jouer à risque après.
Voilà, c'est autre chose. Donc, le quoi ça parle, le pitch en résumé, donc chaque joueur va incarner un peuple différent qui va devoir se développer et se répandre sur un plateau qui est composé de territoires hexagonaux, chacun représentant un type de terrain, donc des forêts, des montagnes, des marais, enfin, du classique, j'ai envie de dire, un petit peu à la Small World. La subtilité, c'est que chacun de ces peuples ne peut construire que sur son terrain de prédilection, son terrain natal. Donc il va falloir terraformer, c'est une grande part de la mécanique du jeu, il va falloir transformer les types de terrain en un type plus propice à la vie et au développement de son peuple. Donc le matériel, il est composé d'un plateau de jeu avec donc, des hexagones, des plateaux individuels au nombre de 7 recto verso, donc ce qui fait 14 peuples en tout. Donc c'est aussi un des atouts, j'y reviendrai après, du jeu, c'est qu'il y a une grande diversité de stratégies et de façons de jouer. Donc des plateaux individuels, chacun a son petit plateau individuel, des bâtiments en bois, beaucoup, en grand nombre, des tuiles pour terraformer justement, diverses tuiles bonus, des bonus qui seront attribués en fin de tour, qui seront attribués dans des conditions spécifiques quand on aura construit tel ou tel bâtiment, etc. L'ensemble est assez coloré, c'est bien dans la veine de ce qui se fait actuellement en termes de graphisme.
Un peu fade, je trouve.
C'est un petit peu fade. Ouais, après...
C'est pas le côté français des graphismes.
Ah non, effectivement, on n'est pas sur un Tokaido ou ce genre de truc. C'est très typé allemand. On le voit tout de suite qu'on a affaire à un jeu pour joueurs, en fait.
Non, je suis pas d'accord.
Un jeu fonctionnel.
Parce que jeu pour joueurs, c'est un jeu triste et un jeu pas beau. Je suis pas d'accord.
D'accord.
Moi, ça, c'est un jeu qui m'a juste pas donné envie de jouer.
Moi, je trouve que les graphismes font pas envie, mais...
Non, c'est vrai que quand on... Bah, même là, sur le salon, quand on passe à côté des tables, on n'a pas forcément envie de s'asseoir pour l'essayer.
Ouais, c'est ça.
Alors qu'en plus, ils avaient fait un planning de réservation pour essayer le jeu qui était complet. Enfin, nous, on est passé le jeudi matin. Dès le jeudi matin, c'était complet jusqu'au dimanche soir. On n'a même pas pu approcher le jeu, quoi. Enfin, on se l'est fait expliquer par l'auteur, mais c'est tout. Et donc, pour la petite info, c'est l'illustrateur de Descendance ou de Ansa Teutonica qui a illustré Terra Mystica. Donc, moi, j'aime beaucoup. Après, c'est pas non plus une pépite graphique, mais c'est suffisamment simple et explicite, notamment au niveau des plateaux individuels. Tout est bien rappelé. C'est très, très clair. Toute la symbolique est évidente. On n'a pas de souci de règles à ce niveau-là.
Pas d'iconographie compliquée comme tournée, tout ça.
Sachant que non plus, voilà, c'est effectivement, c'est pas comme tournée, il n'y a pas de texte non plus sur le matériel. Donc au niveau de l'effort de francisation, ça se fera principalement sur les règles. Et
c'est
sur
pour ça que ça va en janvier, à mon avis. C'est
voilà, et il y a juste l'aide de jeu qui détaille les différentes actions possibles, qui est sur cette version-là en anglais ou en allemand. À part ça, il y a juste le nom des peuples qui est en anglais.
Bon.
C'est surmontable. Donc on peut tout à fait y jouer. Donc ça, c'était pour le matériel.
Mais on s'en fiche, il va sortir en français.
Oui, mais bon. Tu vois, quand tu vas entendre, là, attends, on en reparle dans 10 minutes quand t'auras envie de l'acheter après la présentation.
comme String Railway. Voilà. Est-ce qu'on le trouve quelque part? Attends, je vais le précommander tout de suite.
Laisse la carte bleue sortie, là. En plus, non, je crois qu'il est épuisé partout.
L'Intermystica, il faudra attendre la VF.
Non, mais moi, je vais le trouver. Pour c'est, la comme, c'est comme String Railway.
Et puis, alors, c'est voilà, Amel, 10 minutes après. Pour
ah bah, désolé.
L'état des stocks n'est pas à jour. Peut-être
pas 10 minutes, mais... Demain matin, je pense que je vais avoir le mail.
Alors, au niveau du gameplay, comment ça va marcher, Terra Mystica? Ça va se jouer en 6 tours qui sont tous identiques et décomposés en 3 phases. Alors là, ça, c'est un peu du classique. Une phase de revenu, une phase d'action qui est le cœur du jeu, là où tout va se jouer, on va dire. La dernière phase étant une phase de bonus et d'intendance où on va faire un peu de manipulation pour préparer le prochain tour. Au cœur du tour, le joueur va avoir le choix entre 8 actions. Donc ça paraît beaucoup au début, sauf que les 8 ne sont pas disponibles dès le début. Il y en a qui vont venir progressivement en cours de partie. L'essentiel du début de la partie va consister à s'implanter, à grandir un petit peu son territoire.
Un peu comme un 4X. On va explorer.
C'est un petit peu ça. Effectivement, il y a une composante 4X. Enfin, il n'y a pas l'exterminette, mais il y a l'expansion.
Ouais. Non, on ne se tape vraiment pas dessus ?
On ne se tape pas du tout dessus. Au contraire, même parfois, on va chercher l'adjacence par rapport aux voisins.
Peace and love.
Mais ça, c'est une bonne idée.
C'est une des bonnes idées du jeu. Donc, comment ça va marcher ? On démarre le jeu, on amorce le jeu avec chacun contrôle 2 hexagones. Ça, c'est dans le. Donc, il y a des setups, des mises en place, pardon, conseillées. Un peu comme les colons de Catan, où le jeu nous propose dans les règles une mise en place équilibrée pour tous les joueurs. Après, une fois qu'on a déjà fait une ou deux parties, on fait une mise en place où on choisit à la fois son peuple, on choisit son emplacement de départ, etc. Et là, donc, c'est une des richesses du jeu aussi. Donc, parmi les actions qui seront possibles, on va pouvoir donc terraformer, donc un peu le cœur du jeu, terraformer et construire, c'est une seule et même action. On va pouvoir se développer, donc développer différentes échelles, améliorer, pour ne pas dire upgrader, ces bâtiments. Donc là, on va retrouver un arbre technologique, un petit peu comme les jeux de stratégie temps réel type StarCraft sur PC. On construit un premier bâtiment qui nous donne l'accès à un autre bâtiment plus puissant, puis encore un autre encore plus puissant, etc. Sachant que sur cet arbre-là, il y a des embranchements. Donc on va pouvoir partir dans une voie ou dans une autre. Donc tout ça, ça se fait sur le petit plateau individuel. Sur le petit plateau individuel, en fait, on va mettre tous les bâtiments sont placés sur le plateau déjà à la base. Ça rappelle un petit peu Ansa Teutonica, pour ceux qui connaissent. Enfin, moi, c'est un de mes jeux préférés, donc peut-être que ça a aussi contribué à mon coup de cœur pour ce jeu. Donc, on va placer donc, ces petits bâtiments. Et chaque fois qu'on va vouloir construire un nouveau bâtiment, on va le prendre de son plateau et le poser donc sur le. Enfin, on va prendre de son plateau individuel pour le construire sur le plateau central, ce qui va nous libérer des ressources pour le prochain tour. Donc en type de bâtiment, alors les noms n'ont pas été traduits, c'est, donc il y a les dwellings qui sont les maisons de base, les warehouses, donc les entrepôts, les bâtiments religieux qui sont temples et sanctuaires, et le bâtiment principal, le stronghold, la forteresse, avec un pouvoir qui est différent pour chaque peuple. Donc les dwellings, les bâtiments de base vont fournir de la main d'œuvre, des ouvriers qui serviront à faire toutes les actions de base, les entrepôts vont fournir des pièces, de l'argent, et qui vont avoir un autre rôle aussi, on le verra un peu plus tard, au niveau de la magie. Tandis que les bâtiments religieux, les temples et les sanctuaires vont fournir des prêtres, qui est une autre des ressources du jeu, avec là encore une utilisation spécifique. Et le bâtiment le plus costaud, qui est unique pour tous les peuples, le stronghold, la forteresse, qui lui, une fois construit, donnera accès à un pouvoir qui est spécifique à chaque peuple. Donc évidemment, plus on monte dans l'arbre technologique, plus les bâtiments coûtent cher à poser, mais plus ils vont donner des effets intéressants. Donc voilà, donc l'essentiel du jeu va consister à s'étendre sur son territoire, à terraformer, puis construire des nouveaux bâtiments, dans le but d'engranger toujours plus de ressources et d'accélérer son développement.
Oui, ça ressemble sacrément à un 4X.
Ouais, ouais. C'est un 3X.
On peut dire que c'est un 3X, effectivement.
Oui. C'est plus compliqué, puisque... C'est un XTXX terraforming au milieu.
Ça, c'était donc pour la construction des différents bâtiments. Une fois que ces bâtiments sont posés, on va pouvoir les upgrader, toujours en suivant cet arbre technologique, remplacer un bâtiment faible par un bâtiment plus puissant.
Et par contre, excuse-moi, comment est-ce que c'est représenté dans le jeu je vois pas d'arbre technologique, en fait.
Tu as à peine
en
les
fait,
flèches.
C'est sur les plateaux individuels. On commence avec les bâtiments de base. Il y a des flèches.
Donc, ouais, tout simplement.
Il y a un embranchement. Ça fait une sorte de Y. On a une voie de développement. En fait, on a deux principales voies de développement vers le Stronghold ou alors vers les bâtiments religieux.
Ouais, parce que Thomas vous a fait rêver en faisant un truc à la StarCraft, mais il y a quand même que 5 niveaux de bâtiments.
Non, ça reste limité.
L'embranchement, il est assez simple.
Non, oui, non, c'est.
Quand tu dis 5 niveaux, c'est plus de 3 niveaux. Et
en fait, après les entrepôts, ou bien on va à la forteresse, ou bien on va vers les bâtiments religieux.
Ouais, voilà, sachant que le bâtiment pivot, c'est l'entrepôt. C'est lui qui débloque, c'est à voilà, partir c'est de ça. Lui qu'on va choisir.
Ouais, tu t'es peut-être un peu enflammé en parlant d'arbre. De...
C'est pas grave.
Ton arbuste.
Un buisson technologique. Non, moi, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser voilà, au StarCraft, mais en très, très, très réduit, effectivement. Mais on a quand même ce choix, quand on a un entrepôt, il faut quand même qu'on réfléchisse, notamment pour les prochains tours, si on part sur des bâtiments religieux, si on part sur le Stronghold, si on veut construire une forteresse très rapidement, etc. Donc à savoir que quand on améliore un bâtiment déjà existant, le bâtiment qui vient d'être remplacé retourne sur le plateau individuel. Donc on va perdre des ressources. Typiquement, si on remplace un dwelling, un bâtiment de base qui fournit des ouvriers par un entrepôt, au prochain tour, on aura certes des pièces, mais moins d'ouvriers. Donc il y a toujours un équilibre à trouver sur cette rotation de bâtiments comme ça. Donc il faut vraiment préparer d'un tour sur l'autre notre gestion de ressources. À côté de ça, donc les bâtiments religieux fournissent des prêtres dont la principale utilité va être d'aller sur un petit plateau à côté qui représente 4 temples. C'est juste un système de majorité en fait. Il y a 4 temples, tous équivalents, et le joueur majoritaire sur chacun des temples sera récompensé en fin de partie. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait en début de partie en général, ça vient plutôt sur la deuxième moitié du jeu où là les joueurs vont se tirer un peu la bourre pour gagner les places intéressantes sur les différents cultes.
Alors est-ce que ça veut dire qu'on joue chacun dans son coin ou est-ce que est-ce qu'on se chicane un petit peu sur le plateau?
Tout à fait, on se chicane sur le plateau.
Sur son territoire.
Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, il y a une roue de terraformation. Donc cette roue-là, on la retrouve sur les plateaux individuels. C'est la même pour tous les peuples. Simplement, elle est pivotée, elle est décalée d'un certain angle qui est différent selon les peuples. Mais par exemple, on va toujours retrouver le désert en face du marais, etc.
Parce donc, que chaque peuple en fait a un terrain de prédilection.
Voilà, chaque peuple a un terrain de prédilection. Donc si on prend l'exemple des sirènes, elles vont s'établir uniquement sur le marais. Et pour elles, terraformer une case de désert, ça va leur coûter très très cher parce que c'est diamétralement opposé dans la roue de terraformation.
D'accord.
À l'inverse, une montagne ou une forêt, ça leur coûtera...
Ça coûtera une pelle.
C'est une pelle. Voilà, c'est les pelles, c'est une ressource virtuelle dans le jeu. En fait, c'est des ouvriers.
On est d'accord que...
Pas mal, hein.
Ça coûte des pelles,
c'est ça. C'est exactement ça. Sachant que voilà, plus le terrain est éloigné de notre terrain de prédilection, plus ça va coûter cher en terraformation. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, on le fait assez vite en général, quand on se rend compte de ce que ça coûte, on va chercher toujours à transformer au moins cher possible.
Parce qu'en gros, une pelle, c'est dur à obtenir, c'est ça. Tu veux dire que tu ne terraformeras jamais à trois pelles, ou vraiment cas exceptionnel.
Une pelle, c'est trois ouvriers, sachant qu'on peut améliorer ce ratio justement de transformation, mais de base, ça coûte très cher. Donc, on va essayer de rationner les pelles, de faire une transformation, voire éventuellement deux transformations, mais jamais plus loin. Du coup, quand on a vu ça, eh ben, le nombre de coûts possibles, le nombre de terrains intéressants est très très vite limité par rapport à là où on est déjà implanté à la base. Donc on va chercher...
Donc il faut bien analyser le plateau dès le début. Quoi.
Ah oui, effectivement. C'est là on recoupe un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Edge of Steam. Ouais. L'analyse du plateau est assez importante, notamment l'analyse des mouvements des joueurs voisins, parce qu'on a intérêt à se développer de manière adjacente à nos propres bâtiments. Enfin, on a intérêt à s'étendre en paquet, déjà parce que la règle ne nous permet pas de faire autrement. On s'étend forcément sur une case adjacente de là où on est déjà. Ouais. Et si on arrive à atteindre une sorte de masse critique en termes de taille, de nombre de bâtiments et de taille de bâtiments, on va former ce qu'on appelle une ville. Et là, c'est automatique, c'est pas une action. Le jeu nous bonifie avec multiples récompenses, des points de victoire et d'autres bonus très très appréciables. Donc on va tendre toujours vers la formation de cette ville. Donc c'est un calcul à faire entre ce que ça va me coûter pour terraformer à côté et dans combien de tours je vais pouvoir faire ma ville, etc. Et donc du coup, les adversaires vont à côté, eux, chercher à nous empêcher de faire ça, à scinder notre joli paquet qu'on a fait en deux ou nous empêcher de coloniser les territoires voisins parce que ça les intéresse.
Ça fait un jeu un peu calculatoire, non ? On a l'impression que ça...
C'est assez calculatoire quand même.
Excuse-moi, est-ce qu'on peut terraformer une région qui a déjà été terraformée ?
Bien sûr. Alors en fait, il y a un... Oui.
On sent déjà le vicieux là-dedans.
Ah ouais, mais
et, y a pas et à part ça, il n'y a pas d'interaction et on ne se bastonne pas. Ok, d'accord.
Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'interaction. Tant que les terrains n'ont pas été construits, ils sont neutres. Ils appartiennent à tout le monde.
Ouais.
Donc on peut juste terraformer. C'est pour ça qu'il y a des tuiles spéciales.
Qu'on remet par-dessus,
voilà, effectivement, avec le nouveau type de terrain. On n'est même pas obligé de terraformer vers son terrain de prédilection. On peut s'arrêter entre-temps si on n'a pas assez de pelles, enfin si on n'a pas assez de ressources pour aller jusqu'au bout de la terraformation. On peut s'arrêter en chemin et se dire « je reprendrai au tour suivant ». Sauf qu'entre-temps, le terrain est neutre. Si quelqu'un arrive et se l'approprie, c'est tant pis pour vous.
Ah, c'est dommage.
Effectivement. Donc, autant
et
dire...
on évite voisin.
On est très vite voisins. D'autant plus qu'il y a, donc j'en ai pas encore parlé, mais il y a un système de magie qui va marcher par adjacence, où on va gagner de la magie dès que les adversaires directs, dès que les voisins directs se développent.
Ah.
Alors, ce système de...
C'est encore un truc plaqué, où en fait, c'est pour rééquilibrer le jeu ?
Non, pas du tout.
C'est vrai, c'est dans le thème, il y a vraiment de la magie qui existe.
Quand les autres se développent, on gagne de la magie.
Oui, mais c'est des échanges.
Il y a 14 peuples et tous sont magiciens. Non, okay. La magie, c'est juste une ressource supplémentaire dans le jeu à gérer différemment. Cette magie-là, bien utilisée, elle va donner accès à des actions puissantes qui sont imprimées sur le bas du plateau, qui vous permettront de recruter des ouvriers supplémentaires, d'avoir de l'argent en plus, voire même de faire des ponts. C'est la seule manière de faire des ponts pour connecter.
De la magie ?
Ouais, parce exactement.
Sur la carte, il y a quand même pas mal de rivières qui coupent le plateau.
C'est vrai que j'ai pas parlé du plateau, mais en fait, ça ressemble un petit peu, enfin, de très loin, on va dire, un peu au plateau de
Tigre.
C'est
Tigre.
Il y a les deux fleuves.
Le plateau est divisé en quatre grandes régions, donc est parcouru par deux rivières, et donc évidemment, deux cases séparées par une rivière ne sont pas voisines, à moins de les connecter par un pont, donc qui est une des actions rendue possible par l'utilisation de la magie.
Je croyais que c'était plutôt avec des pelles qu'on faisait un pont, mais.
Non, okay, pas
c'est de la magie là.
C'est de la magie. Donc ce système de magie, comment ça marche ? on va en récupérer un petit peu à tous les tours si on a construit les entrepôts, et on va en récupérer d'autant plus si les voisins se développent à côté de nous. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce sera un peu trop long à expliquer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un système en trois chambres. En fait, ça, c'est toujours sur le plateau individuel. On retrouve trois compartiments magie, le compartiment numéroté 1, 2 et 3 avec une très grande originalité.
Et je trouve particulièrement laid. Hein. On dirait des sortes de cerveaux.
Tu parlais de coupe d'estomac, c'est ça?
Oui, c'est vrai. C'est ça. On dirait vraiment un truc du corps humain coupé. Quoi.
Et donc, c'est trois vases communicants, en fait. Sachant que quand on gagne de la magie, les jetons de magie qui sont symbolisés par des petits jetons en bois passent de la chambre 1 vers la chambre 2.
Ils se bonifient.
Voilà.
C'est un alambic.
Plus, et puis, oui. Voilà, exactement. On distille la magie au fur et à mesure.
Ah, c'est bien, c'est bien.
Puis de la chambre 2 vers la chambre 3. Et c'est uniquement quand les jetons sont dans la chambre 3 qu'on peut les utiliser. Et quand on les utilise, ils repassent dans la chambre 1.
À consommer avec modération.
C'est en circuit fermé, comme ça.
Ah, ils reviennent vers la chambre 1.
Ils reviennent vers la chambre 1. Quand on va gagner de la magie à la prochaine occasion, les éléments passeront de la chambre 1 vers la chambre 2. Et non plus de la 2 vers la 3. C'est uniquement quand la chambre 1 est
vide. Ah oui, est vide que tu peux passer de la 2 à 3.
On fait le transfert 2 vers 3, etc. Donc c'est un système de magie donc en circuit fermé. Les actions coûtent entre 3 et 6 points de magie pour la plus chère. On a 12 points de magie au total. Donc c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on voit venir, qu'il faut aussi anticiper d'un tour sur l'autre.
Mais au début, t'as pas de magie du tout.
En fait, le setup est indiqué sur les plateaux individuels. On est un petit peu dans la chambre 1, un petit peu dans la chambre 2. Mais donc les actions magiques sont indisponibles dès le début du jeu. Il faudra charger un petit peu sa jauge de magie pour commencer à les utiliser. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les actions ne sont pas toutes disponibles dès le début du jeu.
Et ça c'est parti, avec le terraforming pour toi c'est les bonnes innovations du jeu.
Ouais, c'est deux bonnes idées du jeu.
C'est ce qui fait en fait sa différence avec toute la production actuelle.
Oui. Après c'est un jeu où il y a, une fois qu'il est mis en place, zéro élément de hasard. Toutes les informations sont connues.
C'est pas trop dur.
C'est ce que je dis, c'est un peu, à mon avis c'est calculatoire.
C'est quand même très calculatoire, d'autant que dans les 6 tours, à chaque tour il y a un bonus qui est connu dès le début du jeu. Donc par exemple sur un tour on va bonifier la construction de tel type de bâtiment, sur un autre tour on va bonifier d'aller au temple, etc. Donc ça pareil aussi, on peut aussi chercher à le calculer, programmer son prochain tour pour tirer parti des bonus.
La vache. Et il n'y a pas d'enchères par contre dans ce jeu.
Non, il n'y a pas d'enchères.
C'est au moins ça qu'on n'a pas, quoi. Parce que sinon ça rajoute, c'est fini.
Mais en fait, les tours sont relativement simples, parce que je ne sais pas si je l'ai précisé, mais on n'a qu'une seule action à faire à son tour.
Ouais, t'avais dit. Ouais.
Et on tourne comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Donc même si un joueur a passé, il continue à regarder les autres jouer.
Ça permet d'être assez dynamique en fait.
Voilà.
D'accord.
Comment on gagne? En faisant un maximum de points. Donc les points, ils sont faits à la fin par celui qui aura le plus gros réseau, on va dire le plus gros
c'est
paquet.
C'est toujours pareil.
C'est effectivement. Des points, on en gagne en fait. On en gagne
Est-ce que c'est un jeu où tu gagnes souvent tu y es.
Non, on en gagne de deux façons. On en gagne en cours de partie, parce qu'il y a différents bonus qui sont octroyés en cours de jeu. Donc notamment ceux du tour ou ceux de fin de tour aussi, parce que je n'ai pas précisé encore, mais on va récupérer une tuile à la fin du tour qui va bonifier encore un peu sur le même principe que les bonus de tour, qui va bonifier la construction de tel ou tel type de bâtiment, etc. Donc ça, ce sont des points qu'on gagne en cours de partie. En fin de partie, il y a deux choses qui vont scorer. Il y a donc les constructions, celui qui aura fait la plus grosse agglomération, on va dire, et la présence sur les quatre temples. Donc là, c'est un système un système de majorité. Celui qui est le plus haut aura tant de points, le deuxième tant de points, etc. Donc ça, ce sont les deux choses qui vont scorer en fin de partie.
C'est tout.
C'est tout.
Ah ouais, dis donc. Donc en fait, je vais développer une forteresse juste pour ou des bâtiments religieux que pour aller mieux te placer sur.
Voilà, c'est vraiment un jeu de gestion. Tu vas te développer pour engranger plus de ressources, pour encore mieux te développer au tour d'après, etc. Et tout ça, il faut arriver à le synchroniser avec les bonus qui sont disponibles à chaque tour pour engranger un maximum de
points.
Et
en 6 tours seulement.
Et tout en 6 tours. C'est un jeu en fait qui est très très rapide. Il y a beaucoup de frustration parce qu'on se dit, on voit la fin arriver, mais ça se précipite. On se dit, on va dans le mur directement, on n'aura jamais le temps de tout faire, etc. Mais il faut faire avec.
C'est ce qui fait la richesse du jeu, de toute façon.
Exactement.
Ce qui fait que tu as envie d'y revenir, hein, c'est la frustration.
Ah oui, oui.
On a toujours dit. Hein.
Ah ben c'est là pour le coup, la frustration est très bien dosée. Il y en a juste ce qu'il faut. On est toujours en train de calculer. C'est un jeu qui, il faut pas se le cacher, qui est quand même calculatoire. C'est un jeu de gestion. Il faut aimer ça. C'est pas un jeu c'est pas un jeu familial. C'est vraiment un jeu pour joueurs confirmés. Il y a un petit peu de règles à présenter au début. Il faut se le faire expliquer. C'est le mieux en fait. Mais ça fait partie de ces jeux où on a fait un tour, on a tout compris. une fois qu'on est rentré dedans, ça tourne tout seul.
Et quand on a fait une partie, on a compris ses erreurs et on a fait pas la fois d'après.
Est-ce qu'on a envie d'y retourner tout de suite?
Moi, c'était le cas, effectivement.
Moi, je pense qu'il y a deux facteurs pour que tu y retournes. La frustration dont parle Thomas, et puis le fait que tu as plein de peuples aléatoires.
C'est,
fait
voilà,
que tu peux
c'est un des gros points forts du jeu. Donc, il y a 14 peuples en tout, répartis en 7 plateaux individuels.
Avec recto chacun, verso.
Recto verso.
En chacun, fait, la seule différence, c'est quoi? C'est les pouvoirs dans les forteresses, les terraformes.
Oui, alors les spécificités de chaque peuple sont le pouvoir spécial. Donc justement, chaque peuple a un pouvoir particulier. Donc il y en a un tel va pouvoir faire une ville plus rapidement, un tel va pouvoir se répandre le long des rivières, etc. Un terrain de prédilection et un pouvoir de forteresse qui est unique. Donc en fonction de ça, tel peuple aura intérêt à construire sa forteresse très très vite pour en tirer parti et se développer. Un autre aura intérêt à la construire qu'en fin de partie, etc.
Et pour autant, t'as pas les stratégies
Alors, ça, j'ai pas encore fait suffisamment de parties. C'était une de mes interrogations. Ouais. Est-ce que le choix du peuple conditionne pas trop la stratégie?
Je pense quand même que les 6
parties, excuse-moi.
J'en suis à 4 ou 5 pour l'instant.
C'est déjà pas mal, hein. Bon, je suis sorti il y a moins d'un
mois. Oui, tout à fait.
Et oui, moi, je pense qu'avec les faits que t'aies aussi les bonifications sur 6 tours, ça permet de
alors
compenser.
Ça, c'est, et ça, c'est en plus, c'est mis aléatoirement en début de partie. Donc ça renouvelle aussi les parties.
Je pense que du coup, ça te pousse à faire des stratégies un peu différentes. Ouais.
Une seule carte?
Oui,
c'est recto verso ou...
Non, c'est un seul plateau.
Alors, après, c'était un défaut, je pense.
À la base, ils avaient prévu de faire un plateau modulaire, mais un peu à la Kingdom Builder où que tu assembles en début de partie. C'était vraiment... Le jeu de l'année abstrait pour BGG.
Mais le problème, c'est que ça doit être plus dur à équilibrer,
c'était
j'imagine.
Plus dur à équilibrer, apparemment. Ah ouais, d'après les infos que j'avais vues, ils avaient fait entre 150 et 200 parties de playtest. Donc, c'est déjà pas mal pour un jeu qui dure 2 heures.
C'est pas mal, ouais.
C'est plus difficile à caser qu'un petit jeu de cartes.
Excusez-moi, vous avez des informations sur Fireland?
L'éditeur?
Oui,
parce que je précise que c'est l'éditeur. Non.
Effectivement, c'est un tout petit éditeur.
Qui sort de nulle part avec un jeu qui est premier au sein des scouts.
Je crois bien.
Vu son nom? Parce qu'au départ, je n'étais pas sûr que... Ouais.
Voilà, donc comme
mais c'est tout le temps comme ça, hein, le jeu qui cartonne au Fairplay. L'année dernière, c'était Amonique qui existait nulle part pour faire Trajan.
Il est vraiment sorti de nulle part. Hein, donc
oui,
Non, Fireland, ils ont fait deux choses.
Excuse-moi, Trajan, c'est quand même...
Oui.
C'est quand même Stefan Feld.
Là, il y a Rosenberg derrière, tu sens.
Ouais. Et c'était l'auteur du Sceptre de Zavendor, donc il est sorti déjà il y a quelques années.
Qui est quand même sacré. Justement, alors là, par contre, pour ça, je me demandais s'il y avait des enchères, parce que Zavendor, c'est quand même...
Non, il n'y en a pas.
Donc si vous ne connaissez pas Sceptre de Zavendor, c'est ou Outpost, c'est un jeu où il n'y a que de l'enchère. Alors, ce qui est très exigeant en termes d'enchères, je pense que c'est au summum des jeux d'enchères.
Pour conclure, Terra Mystica, pour moi, c'était un gros coup de cœur, peut-être un de mes jeux préférés de cette édition 2012 des scènes. Il y a beaucoup de choses, notamment beaucoup de choses que j'aime bien dans les jeux. C'est vrai que moi, je suis plus typé jeu allemand, jeu de gestion, et là, il y a tout ce que j'aime. Il y a des choix cornéliens, 0% de hasard, une grande variété de stratégies, un bon renouvellement des parties, des plateaux individuels. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, des choses qu'on retrouve dans Goa ou Endeavor, par exemple.
C'est rigolo, ça.
Et notamment Ansa Teutonica.
C'est rigolo.
De quoi?
D'aimer les plateaux individuels.
J'aime beaucoup. J'aime bien les jeux de stratégie et les plateaux individuels.
Agricola, là.
Voilà, Agricola aussi. Mais pour autant, on ne fait pas non plus sa cuisine dans son coin. Il faut constamment surveiller les autres. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils convoitent comme cases, etc. pour ne pas se faire griller la priorité. L'interaction, elle est principalement à ce niveau-là. Donc il y a une très forte interaction, mais jamais directement. On ne va jamais détruire, par exemple, un bâtiment qui a été construit. Ça, c'est impossible dans le jeu. Tous les bâtiments qui sont là sont en place jusqu'à la fin de la partie. L'illustration et les graphismes sont très clairs. L'iconographie est bien. On regarde pas, on retourne pas dans le livret de règles une fois que la partie est commencée. Et voilà, ce que je n'ai pas parlé, c'est qu'il y avait encore plein d'autres choses. Enfin, il y a plein de niveaux de règles.
Richesse.
La richesse, effectivement, c'est très très riche. Il y a des bonus à choisir en fin de tour dont on ne pourra pas garder deux fois le même d'un tour sur l'autre. Et il y a un petit système un peu à la Puerto Rico où on va bonifier les bonus qui n'ont pas été pris en mettant des pièces dessus. Enfin, soit des actions supplémentaires, soit des récompenses, soit des récompenses en termes de points de victoire, soit des ressources supplémentaires pour le début du prochain tour.
C'est un petit plus, quoi.
Donc c'est un petit plus et à adapter. Donc ils sont très variés à adapter en fonction de la stratégie qu'on a adoptée pour le tour ou même pour le prochain tour. Donc ça, c'était pour les points forts du jeu. C'est vraiment, je répète, hein, c'est un jeu pour gamers, je pense qui décevra pas.
Durée de partie?
Durée de partie, c'est 25 minutes par joueur.
C'est tout?
C'est une demi-heure.
Non, mais toi, tu joues, t'es jeune, tu joues vite.
Une fois qu'on sait jouer, on va dire.
Ouais. Ça fait 2 heures à 4 joueurs?
À peu près. Un peu moins. Non, c'est ça, c'est même exactement ça.
Après, en fonction des joueurs.
C'est deux heures moins 20 minutes.
Ouais, à fonction des joueurs. Après, moi, avec certains joueurs, j'arrondirais à 3 heures. Mais. C'est parce qu'on a le plaisir du jeu, c'est-à-dire qu'on discute aussi d'autres choses autour de la table.
Oui, voilà, exactement. Après, c'est quand même un jeu qui n'a pas de temps mort. Enfin, on n'a qu'une seule action à faire à chaque tour. Donc, les tours tournent vite. Le seul petit défaut, c'est que des fois, on peut sortir du tour relativement vite quand on a fait tout ce qu'on avait à faire.
Et du coup, les autres jouent un peu.
Et on regarde les autres jouer. Ça peut être long des fois. Au niveau des petits défauts, j'en citerai deux ou trois, on va dire. Il n'y a rien de vraiment très original, c'est qu'un assemblage de mécaniques qu'on a déjà vu ailleurs dans d'autres jeux, donc dans ceux que j'ai cités, Endeavor, Assetto Tonica, etc. Ou même Kingdom Builder, parce que le plateau rappelle un peu Kingdom Builder.
Ouais.
Donc, il faut le savoir quand on se lance dedans. Autre petit défaut que j'ai pu constater sur certaines parties, un joueur distancé aura du mal à revenir dans la partie.
Ah, c'était une question que j'avais, ça. C'est un peu win-win. Mais vu qu'il n'y a pas d'interaction directe, tu ne peux pas attaquer un bâtiment adverse.
Un joueur qui se fait enfermer, par exemple, auquel on va priver des possibilités de s'étendre, aura du mal à relancer la machine. Parce que c'est quand même l'occupation du terrain qui permet de générer des ressources et de se développer sur les prochains tours. Voilà, donc un joueur qui va se retrouver vraiment un peu pris au piège ou enfermé par des voisins un peu belliqueux ou un peu expansifs, on va dire, aura toutes les peines du monde à revenir dans la partie. Et dernier point qui...
Non, j'ai pas compris. T'as des voisins belliqueux, mais on peut pas te taper dessus.
Non, en fait...
Mais ils vont venir t'occuper ton espace.
En fait. Voilà.
D'accord.
Occuper tout ton espace et t'auras plus d'espace vital, on va dire. T'auras plus de marge de manœuvre pour te développer.
C'est un jeu agressif. Enfin, c'est un jeu où il faut...
L'interaction est constante. Il faut toujours surveiller en permanence ce que font les adversaires, ce qu'ils peuvent faire, où est-ce qu'ils en sont dans leur développement, ce qu'ils ont comme ressources.
C'est ce qui fera sa force aussi.
C'est ce qui fera sa force. Aucune information est cachée. Donc, on voit les plateaux individuels de tous les joueurs.
Tu sens le
analysis paralysis.
Ah, ouais, tu le sens bien, à mon avis, au tour 5, j'imagine, ça peut arriver.
D'autant que les scores peuvent être serrés. Donc, des fois, un petit rien peut faire basculer la partie. Bon, ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Dernier petit point qu'on pourrait lui reprocher, je ne l'ai pas encore constaté, parce que je n'ai pas encore suffisamment de parties. Dans quelle mesure les stratégies sont dictées par le choix des peuples des joueurs? Par exemple, un joueur qui aura pris les sirènes aura tout intérêt à se développer le long de la rivière.
C'est pour ça qu'il y a 14 peuples, c'est quand même pas mal.
Oui.
À équilibrer tout, c'était costaud.
Ça lui est un casse-tête incroyable à équilibrer parce que tous les peuples ont l'air d'être équilibrés. Je ne les ai pas tous testés encore. Il y en a qui sont conseillés pour les premières parties, d'autres qui sont à réserver aux joueurs expérimentés, mais avec des façons originales de jouer.
C'est pas Small World, quoi.
Ah non, c'est pas du tout Small World.
Non, mais 14 peuples, tu vois, on n'est pas loin, quoi. Hein. Détendre.
Et donc là, les auteurs parlaient d'une extension en préparation.
Oui, bah évidemment.
Ouais.
Est-ce que tu penses à un jeu qui va gagner, qui va rafler quelques prix l'année prochaine?
Ah, il est quand même. J'ai pas envie de dire élitiste, mais il est quand même.
Donc il aura le BGG. Hein.
Ah, il rentre.
Ou l'IGA peut-être.
L'IGA, voilà, ouais, enfin des niveaux comme ça, quoi.
Il est calibré pour l'IGA ou le BGG, le Strategy Game, ou des choses comme ça. Le Spiel, non, mais c'est pas la peine d'y penser, je pense pas. Bon, on verra, on en reparlera dans un an.
Non, effectivement, c'est trop. Non, mais ça peut être le Deutscher Spieler Prize.
Ça, c'est possible. Voilà, donc Terra Mystica, un jeu pour 2 à 5 joueurs auquel je conseillerais de jouer de 4 à 5 pour qu'il y ait quand même de l'interaction. Ouais. 25 minutes par joueur. Malheureusement, il est impossible à trouver en France ou alors très très difficilement.
Il va être édité par...
Il va être édité par Philosophia.
Philosophia, et ça arrive début 2013.
Voilà, début 2013, donc là, vous n'aurez pas de mal
à trouver. En gros, Cannes, quoi.
Par contre, attendez-vous à le payer plus d'une soixantaine d'euros parce qu'il y a un max de...
Il y a beaucoup, beaucoup de matériel.
De matériel. Il était en vente 65 euros et je vois pas pourquoi...
On pourrait le payer à 50, je crois, et ça, le prix normal, c'est 60.
Le prix du salon était 50 euros, mais ça les vaut largement. À la fois parce que le jeu est très bien, on n'est pas volé, il y a beaucoup de matos. Quand on ouvre la boîte déjà pèse son poids, elle a un gabarit un peu...
Ouais, je crains son gabarit parce qu'il n'est pas dans les normes.
Non, il n'est pas dans les normes, effectivement.
Ça, c'est pas bon, ça.
Au gabarit.
Tu veux dire la taille de la boîte, c'est une boîte rectangulaire, mais qui n'est pas dans les formats traditionnels.
Elle est plus large, c'est tout.
Mais elle est plus haute, mais elle est plus large.
Elle est plus large aussi.
Je pense que j'aurai du mal à mettre sur mes boîtes habituelles. C'est pas un format Puerto Rico.
C'est Agricola, mais en épaisseur, c'est plus qu'Agricola.
Ah, bah c'est bon.
Ah, mais ça va, tant que c'est en largeur, c'est Agricola, ça me va, moi. Ça va, j'ai déjà des piles dédiées.
Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur Terra Mystica.
Terra Mystica, un jeu de Helge Ostertag et de Jens. Vas-y, bouge la boîte.
Vas-y, allez.
Jens. Drugge Müller.
Oui.
Paru chez Fireland et bientôt chez Philosophia. Sans doute un des meilleurs jeux de SN 2012, de la QV 2012 du Salon International du Jeu de SN. « Je vais vous parler d'un autre jeu de Essen qui est Love Letter. Love Letter, c'est un jeu de Japan Brand, donc c'est les Japonais qui viennent, et ils viennent toujours avec un gros jeu. Cette année, c'était Trends, et puis ils viennent avec plein de petits jeux. Et là, en l'occurrence, il y avait un petit jeu qui s'appelait Love Letter et qui était vendu 6 euros. 3 euros chez AEG, avec des graphismes qui étaient un petit peu moins beaux, mais bon, voilà.
Style BD.
Style BD.
Mais style BD soleil.
Et là, en l'occurrence, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est 16 cartes. Et 16 cartes qui représentent des personnages. Donc, on va avoir une princesse, on va avoir un ministre, un général, deux chevaliers, deux clowns et 5 soldats. Et l'idée, c'est qu'on va chacun commencer avec un personnage dans la main. On va avoir une pioche et on va piocher une carte et jouer l'un de ces deux personnages. Et chaque personnage a un effet, une capacité spéciale, soit passive, par exemple la princesse. Si vous défaussez cette carte, si on est obligé de défausser la carte princesse, on est éliminé de la partie. Le ministre, qui a une capacité passive aussi, si la main du joueur est égal à 12 ou plus, c'est-à-dire que chaque personnage a un rang, par exemple la princesse a un rang de 8, le ministre a un rang de 7, si les deux rangs cumulés des deux cartes est égal à 12 ou plus, alors on est éliminé de la partie. Et puis il y a des effets aussi. L'effet du général, c'est échanger votre main avec celui du joueur ciblé. L'effet du sorcier, c'est le joueur ciblé ou vous-même défausse sa carte et en prend une nouvelle, etc., etc. Et le but du jeu, c'est en fin de compte avoir à la fin de la partie, à la fin de la manche en fait, le personnage du plus haut rang, c'est tout. Donc comme le dit l'auteur, il y a 60% de chance et 40% de stratégie. Donc c'est super simple à expliquer, puisque l'idée c'est qu'on va juste prendre une carte et puis jouer une des deux cartes qu'on aura en main. Et puis c'est très très rapide, ça se joue en 5 minutes, ça se joue de 2 à 5 joueurs, de 2 à 4 joueurs, pardon. Puis voilà, c'est un très très bon filler. On peut l'emmener partout, c'est très déséquilibré, mais on s'en fout parce qu'on va faire 3 manches. Enfin, non, c'est au meilleur des trois manches.
Deux victoires.
Et puis, la bière, c'est mal. Mais vous l'aurez compris, Love Letter, c'est un jeu qui est assez étonnant. C'est Seiji Kanai qui fait ça, donc de Japan Brand. C'est juste...
Un deuxième jeu de Japan Brand qu'on présente ce soir, en fait.
C'est la soirée japonaise. Ouais. Juste un petit mot
pour dire... Ah oui, parce que String Railways.
Ouais, c'est marrant.
Non, mais...
C'est Seiji Kanai, l'auteur, là, s'est fait une spécialité de produire des jeux avec juste 16 cartes. Il en a sorti un autre durant le salon SN 2012 qui s'appelait R, tout court.
R, comment R
comme
avec
la lettre R. Juste R. Il y avait eu RRR il y a un an. Et donc là, cette année, ils ont sorti R.
Mais bien sûr, léger.
Qui a beaucoup moins bien marché que Love Letter. Love Letter a bien buzzé pendant tout le salon. Je pense que c'est pas non plus.
Notamment
pour
par
rien
ses
que,
graphismes.
Par ses graphismes, effectivement. Ouais. Et le fait aussi qu'il soit présent deux fois, donc une fois chez AEG et une fois chez Japan Brand en quantité plus limitée. Et je pense que c'est pas pour rien dans le succès et dans le fait que Philosophia l'ait repris pour l'année prochaine.
Nice. Avec les graphismes de Noboru Sugihara.
Alors ça, c'est la grande inconnue. Moi, à titre perso, j'aimerais beaucoup. J'espère qu'ils ne prendront pas... Il y a peu de chances qu'ils prennent la version AEG.
Je prends le pari qu'ils en referont une complètement différente.
Une troisième version. Parce que la version AEG s'inscrit dans leur univers. Ils ont développé un univers un petit peu comme Edge pour Runebone, des Descendants, etc. Donc c'est l'univers de Dominaré, je crois. Ils ont sorti plusieurs jeux dans cet univers un peu baroque, un peu rococo. Après, on adhère ou pas. Mais effectivement, je pense que Philosophia choisira une troisième voie et fera ses propres graphismes. Mais c'est juste une supposition.
Et par contre, on en parlera peut-être dans un autre épisode, mais quand tu expliques la règle, ça me fait penser à un autre jeu qui avait buzzé un petit peu à Essen, qui s'appelle Coup. C-O-U-P.
Oui, on en parlera dans un autre épisode.
Mais on n'en est pas loin du concept.
C'est ça qu'il y a des similitudes, effectivement, dans les deux. Mais il y a beaucoup plus de hasard dans Love Letter que dans Coup.
Oui, non, mais c'est juste un jeu de baratin.
C'est juste un filler, c'est pour se détendre entre deux parties.
Quand tu es en file d'attente. Il faut pouvoir poser, mais je veux dire...
En file d'attente.
En file d'attente, quand tu fais l'attente chez le médecin ou machin. Il faut jouer en deuxième joueur. Il faut jouer à 4, c'est ça.
Nous, c'est très, très...
Quand tu vas chez le médecin à 4, oui,
tu vas pas à 4, oui, d'accord. Non, je suis parti sur le coup que c'était pas bon.
C'est très bien pour terminer les soirées-jeux sur quelque chose, une note un peu légère, on va dire. quand on n'a plus ni
quand
le
quand la
temps,
bière a coulé à flot.
Quand la bière a coulé, quand on n'a plus ni le temps ni la force de se relancer dans quelque chose d'assez conséquent.
C'est ça.
C'est très bien. Mais il faut, moi j'insiste bien, il faut le prendre pour ce que c'est un petit jeu très léger.
Bonne surprise.
Ouais, une bonne surprise.
Nous on est passé à côté et en fin de compte, c'est une bonne surprise.
Ouais, c'est comme ça. Il faut bien qu'on en ait pour les fois d'après.
Ouais, tout à fait. Voilà, donc bah, écoutez, moi, je suis très content d'avoir eu Thomas avec nous ce soir.
Eh oui, il reste un jeu.
Quoi? Oh merde, oh merde.
Ah oui, Kin.
Le...
Il reste un Kin sur iPad, mais bon...
Bon bah vas-y.
Le Kin caché.
Alors,
désolé.
Bah, voilà, bah, on va passer aux partie. Écrans alors maintenant.
Non, on est à mi-chemin entre les écrans et le plateau parce que c'est un jeu...
Mais tu nous présentes quoi, Kin sur iPad ou Kin sur plateau?
Eh ben, alors j'ai pas la version plateau encore, donc je vous présente sur iPad, mais
voilà,
c'est la même.
On va placer un jingle quelque part. Et
ah bah vas-y, mets le jingle.
Maintenant.
Et on se retrouve donc maintenant pour la partie écran. Et je vais présenter Kin sur iPad, ah, mais c'est... qui peut aussi se jouer sur version plateau.
Je vous rappelle quand même qu'on avait dit, ouais, on va faire une heure d'actualité plus une heure d'explication de jeux de société. Ça fait déjà une heure et demie qu'on tourne.
Non, mais il fallait pas inviter Thomas à parler des jeux de train.
C'est un numéro d'explication de jeu qui est très riche et qui, à mon avis, va beaucoup vous plaire. Mais là, il est déjà 00:51.
C'est pas ce qu'on m'avait vendu, moi.
Non, je te dis qu'à une heure, t'étais chez toi et à une heure, tu seras pas chez toi.
Bah, à une heure, tu seras même pas parti de chez moi. C'est
non. Bon, bah, Jérémy, à toi.
Alors, c'est parti. Donc, je vous présente Kin. Alors, c'est un jeu, je crois qu'on l'avait déjà dit dans la phase A, qui est sorti à la fois sur...
C'est Kin ou c'est
Kin? Non, c'est Kin. C'est Kin, Q-I-N, point. Vous vous débrouillerez après pour la prononciation. N'hésitez pas à m'aider pour améliorer mon chinois.
37A.
J'ai pas encore pris de cours de chinois. Donc... C'est un jeu de Rainer Knizia qui est sorti à la fois en version plateau chez Pegasus, donc éditeur allemand, et en version iPad uniquement, pas d'iPhone, par Ilately, qui est un nouvel éditeur. Donc il se faisait la main là-dessus. Le challenge pour le portage en version iOS, c'était qu'ils n'avaient que seulement 4 mois pour le faire. Et je dois avouer, je vous le dis déjà, que j'ai été bluffé par la qualité du portage. Le principe du jeu, alors c'est un jeu de Knizia. Alors Rainer Knizia, c'est quand même un grand auteur. Ces dernières années, il a quand même pas produit autant de jeux, les moins prolifiques qu'il y a une dizaine d'années, où il était vraiment encensé, enfin en permanence ce qui sortait, c'était vraiment très bon. Et là, je dois avouer que j'ai été très très agréablement surpris par Kin. Bah, notamment parce que déjà, en fait, un jeu de Rainer Knizia, à la base, je me suis dit, ouais, bon, bah, maintenant, il a perdu un peu son mojo, et en fait, en y jouant, non. Et on retrouve.
Tu veux dire qu'il fait une version light de Tigre et Euphrate? C'est ça,
ouais, retrouver son mojo. Bien sûr, vas-y, coupe-moi l'herbe sous le pied.
Excuse-moi, mais.
C'est ça,
tout de suite au but.
Et en fait, il fait une version allégée d'un de ses meilleurs jeux qui est Euphrate et Tigris, effectivement. Alors, le principe de Kin, c'est un jeu de pose de tuiles. Alors, on dira de domino, puisque sur chaque. C'est des tuiles. On joue sur un plateau avec des carrés pour les cases, et donc les tuiles représentent deux cases. Donc. Et c'est des dominos dans le sens où ils peuvent avoir deux couleurs ou une même couleur. C'est un jeu donc de pose parce qu'on va constituer des provinces et également de majorité puisque le but c'est d'aller poser ces provinces à proximité des villages. Les villages sont des cases qui sont déterminées sur le plateau et qui vont permettre de poser des pagodes. Poser des pagodes, c'est tout ce qui compte pour gagner. Au départ, en fonction du nombre de joueurs, on a un certain nombre de pagodes à poser. Je crois que c'est 19 à 3 joueurs. Quand on crée une province, donc à partir de deux cases d'une même couleur côte à côte, on a une province, on pose une pagode dessus. Si une province fait au moins 5 cases, on pose une deuxième pagode. Et à partir de ce moment-là, elle ne peut plus être, fusionnée avec une province adverse. Et pour acquérir les villages, il suffit d'être majoritaire sur les cases auto. Donc d'où le concept de tuiles et de majorité. L'intérêt c'est que ça se joue vite puisqu'à son tour on a que 3 tuiles, 3 dominos en main, on en choisit un que l'on pose sur le plateau, ensuite il faut placer les pagodes, on les place et c'est au joueur suivant de jouer. La tension elle est forte puisqu'il faut en permanence surveiller ses adversaires comme il leur reste de pagodes. Olivier teste n'importe quoi.
Non mais on peut déplacer le plateau en fait. C'est rigolo.
C'est la première fois que je vois un plateau qu'on peut déplacer sur un portage.
Oui, mais c'est pas... Ça ne sert à rien. Mais bon, c'est pas gênant pour le jeu. Sauf quand on s'appelle Olivier et qu'on a bu de bière.
On va dormir chez Jérémy ce soir.
Donc effectivement, là, j'ai résumé déjà tout le thème. Donc ils ont beau avoir mis la Chine, la notion de province, de pagode, de village. En fait, c'est hyper abstrait.
La Xine.
La Xine. En fait, c'est super abstrait. Hein. C'est vraiment la preuve avec trois types de couleurs, etc. Donc on construit vite les provinces. La bonne idée, par contre, de l'éditeur, c'est d'avoir mis tout de suite dans la boîte deux plateaux de jeu. Mais évidemment, enfin, il y en a un seul recto verso. Il y a un mode, on va dire, plus débutant, et ensuite un mode avancé qui va amener beaucoup plus d'interactions.
Quand tu parles de boîte de l'iPad ou...
Ben, je parle des deux versions, monsieur, parce qu'ils sont sortis en même temps. Sur iPad.
Non, on est là. Et mais je comprends plus rien, on est dans la version écran, là.
Enfin, la version écran. Ben, je parlais après des qualités du portage, je parle déjà du jeu.
D'accord, mais
sur le portage, il y a les deux versions aussi.
Sur l'iPad, tu as les deux versions.
Oui, il y a les deux versions, bien sûr. Et on peut imaginer qu'il pourra se développer même différemment sur iPad en proposant d'autres plateaux, par exemple, plus facilement qu'une version plateau. Mais c'est pas l'ordre du jour. Voilà, c'est tout au niveau du jeu. J'ai tout dit. Donc, ce qui fait la richesse du jeu, c'est la simplicité de la règle. On a vite fait d'expliquer la règle. Pour autant, c'est assez profond. Il y a pas mal de choix. On pourrait pas croire comme ça, mais beaucoup de choix entre se développer soi-même, se renforcer, ne pas poser de pagode ce tour-ci, se renforcer pour plus tard, ou bien aller essayer de rivaliser avec tes adversaires. Il a par contre un défaut pour moi, c'est qu'à deux, ça fonctionne pas. Tout simplement. Le premier joueur à deux va avoir du mal, va toujours courir après l'autre joueur. Il a un vrai défaut, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est fait distancer à deux, pour moi, on ne peut pas remonter la pente. Et du coup, à quatre, à l'inverse, ça va être un petit peu chaotique, on ne peut pas être partout à la fois. Mais par contre, à trois joueurs, moi je le joue en fait sur iPad en version trois joueurs, et il a le bon format. C'est-à-dire qu'il est vraiment équilibré, les choix sont vraiment difficiles justement entre se développer, aller rivaliser avec les autres, etc. Il faut toujours surveiller la progression des adversaires. Il y a effectivement un hasard de la pioche aussi, puisqu'on a quand même trois tuiles en main, donc ça se laisse du choix. Mais globalement, quand des tuiles nous intéressent pas, on va avoir tendance à les garder jusqu'à ce qu'on ait trois tuiles qui ne nous intéressent pas. Et pendant un ou deux tours, ça va être un peu la traversée du désert. On va avoir du mal à pouvoir aller placer ses pagodes.
Je ne comprends pas ce que Dourj Divouste vient faire ici.
Oui, effectivement. C'est le désert de Gobi, en Chine.
À travers le désert,
n'est-ce pas,
de Knizia.
Pour autant, il y a cet aspect conquête de territoire, on peut reprendre des territoires aux adversaires, qui font que c'est cet effet un peu Frat et Tigris simplifié. La simplification de la règle fait qu'il est jouable avec un public très large, donc pas forcément du gros gamer, et un public plus léger ne sentira pas l'effet win-to-win, etc., que je reproche à deux joueurs ou l'effet chaotique de quatre joueurs. Au niveau du portage, maintenant, pour en parler par Illetli, la V1 avait quelques bugs, des trucs qui marchaient pas bien, des pagodes qui se posaient pas, etc. Ils ont rapidement corrigé le tir avec une version 1.1 qui est finalement de très bonne facture. Les bugs sont corrigés, à part donc l'effet du plateau qui bouge, qui déplaît à Olivier, sinon globalement on est...
Ah non, ça m'amuse, c'est pas que ça me déplaît, ça m'amuse.
Oui, c'est vrai que ça sert à rien, ils l'ont mis, on sait pas pourquoi. Mais le reste va vite, les IA sont de bon niveau. Il y a trois niveaux d'IA, le dernier niveau est très corsé.
Tu joues avec laquelle ?
Le moyen, là. Et les premières parties, tu les fais avec la facile et tu as déjà du mal. En fait, il y a des réflexes à apprendre dans le jeu et il va falloir les IA sont bien pensées. Effectivement, on est quand même plus près d'un jeu abstrait, donc c'est plus facile de faire des bonnes IA que dans un jeu comme Puerto Rico qui a trop de paramètres à prendre en jeu pour faire une intelligence artificielle qui marche correctement. Le défaut du jeu, par contre, c'est il est que en anglais. Donc après tout, vous me direz que le matériel est neutre, mais le tutoriel est trop léger, et ce qui fait qu'on est obligé d'aller lire la règle. Alors heureusement, c'est une règle qui fait, on va dire, l'équivalent de 2-3 pages, mais c'est en anglais, donc ça peut malgré tout en rebuter certains. C'est pour moi les seuls défauts que je vois dans ce portage. Voilà, il est évidemment jouable en ligne, donc comme d'habitude, je ne l'ai pas testé contre d'autres joueurs, via le Game Center normalement, mais bon, cette partie-là, moi je ne l'ai pas faite. Parce que traditionnellement, quand je teste mes jeux, c'est des périodes où je suis pas en connectivité, donc je ne peux pas jouer sur le Game Center. Voilà, donc, que dire, le jeu sur iPad, il est vendu 4,49€. Moi, j'ai tendance à le conseiller, en fait. Que ce soit une version famille plateau, ou bien, qui sera plus dur à trouver en France pour l'instant, il faudra peut-être attendre sa version Gigamic française prévue au printemps. 4,49€ sinon sur iPad, ça les vaut ?
Je trouve ça un petit peu cher quand même pour un jeu qui va être joué rapidement. Là pour le coup, en file d'attente ou ce genre de truc, c'est quand même un jeu très très rapide, ça, c'est un filler quoi.
C'est sa force pour moi sur iPad justement. Moi oui. Je joue rarement un jeu de 40 minutes sur l'iPad alors qu'un jeu de 5 minutes.
Oui, mais je trouve que 4,49€, pour moi, c'est presque une barrière ou un seuil psychologique. J'ai un avis qui est un peu biaisé parce qu'on n'a pas trop apprécié notre partie ASN. Donc, je ne sais pas si je l'achèterais sur iPad. Effectivement, le peu que j'en ai vu, le portage a l'air de bonne qualité. Ah ouais, ça donne envie d'y jouer. Après, je ne sais pas si à la longue, le jeu se...
Alors, comment je vais dire, le fait qu'il joue plus vite qu'un Euphrates Tigris, par exemple, qui est aussi sur iPad, fait que l'on ressort plus facilement au début. Surtout qu'au début, en plus, les IA sont bonnes, il y a une frustration. On perd les premières parties. Et donc, on le ressort facilement parce qu'on fait une partie en 5 minutes. Au début, j'ai vraiment enchaîné beaucoup de parties, ce que je fais rarement avec des jeux sur iPad.
Mais effectivement, c'est peut-être comme tu disais, on a essayé à 4 et c'était un petit peu chaotique.
Non, il ne faut pas jouer à
4. Je trouvais que le pouvoir des doubles tuiles était trop fort.
Et oui, les doubles tuiles, effectivement, quand on a des tuiles, pas des doubles, c'est une catastrophe.
Ah oui, voilà, on avait du mal à les placer, ça ne nous a pas emballé plus que ça à l'issue de la partie. Pourtant, on a joué vite sur la version en dur, on va dire, la version physique. On a dû jouer 20-25 minutes.
Ouais.
Et ça ne m'a pas donné envie d'acheter la version iPad. Effectivement, sur le stand de Gigerspiel, ils présentaient des iPads en libre-service avec l'application qui tournait en même temps. C'était une jolie performance. Mais ça m'a pas donné envie d'y revenir une fois rentré en France et de me dire, tiens, le jeu m'a interpellé, je vais l'essayer sur iPad et voir. Surtout, et donc, d'autant plus, 4,49€ pour ça, ça me fait un peu tiquer.
Donc le prix d'un jeu de société sur iPad, pour toi, c'est combien? Le prix que tu serais prêt à mettre, ou que tu es prêt à mettre?
J'ai pas de prix indicatif, en fait. Ça va dépendre si je connais déjà le jeu. Si c'est un portage de Puerto Rico, par exemple, si je sais qu'il est bien, peu importe le prix, je l'achèterai, ça ne me dérangera pas. Ou un portage de Kailus, ça ne me dérangera pas. Après, si c'est pour découvrir un jeu que je ne connais pas, si c'est plus de 2-3€, j'y réfléchis à deux fois. Je vais commencer à aller regarder un peu les avis sur Internet, ou les reviews, les différents trucs, voir un peu ce que ça vaut.
Ah, c'est étonnant. 4€ pour découvrir. Enfin, attends, mais tu vas essayer ça, mais sinon, si on ne l'a pas essayé, le jeu, c'est l'occasion. C'est pas très cher pour essayer une version.
Ouais, c'est vrai, mais en fait, il faut qu'il y ait déjà suffisamment de portages de bonne qualité que pour qu'il y en ait un nouveau qui se rajoute. Il faut qu'il soit vraiment intéressant. Un peu comme pour les jeux, en fait, pour en rajouter un à la collection, il faut qu'il ait une réelle valeur ajoutée.
Oui, sur iPad, effectivement.
Qu'il soit suffisamment intéressant et qu'il me fasse un petit peu délaisser ceux auxquels je joue déjà.
Mais un San Juan à 6,99€, t'as pris?
Non, parce que San Juan. Pareil, je joue à Puerto Rico, je joue pas à San Juan.
Ah, voilà.
Et là, tu joues à Race for the Galaxy et tu joues pas à son...
Ah bah, s'il y avait un portage de Race for the Galaxy, je serais preneur.
Peut-être un jour.
Peut-être. J'espère bien. J'y joue sur BGA en attendant.
Chut. Non, non.
Si,
non.
Si, si, si.
Non,
si,
non,
si,
non,
si.
C'est 1h du matin. On réinvitera Thomas.
Non. Bon, d'accord, ok. Ok, on réinvitera Thomas.
C'est plus facile.
Oui, non, hein, on va pas commencer à parler.
Non, c'est 1h05.
On peut signaler quand même. On peut signaler quand même.
Tu peux dire que je reviendrai si tu veux.
On peut signaler que Thomas reviendra. Ah non.
On peut signaler quand même. Donc, vous avez fini sur.
Je vais essayer de conclure quelque chose peut-être.
Chine.
Le bordel là. Donc non, pour moi, 4,49€, c'est pas un prix excessif. Peut-être qu'effectivement, j'ai beaucoup joué au début et que l'engouement baissera plus tard. Mais au final, je pense que j'ai passé autant de temps que j'ai pu passer sur des Euphrates et Tigris, par exemple, sortis sur iPad il y a bientôt un an. Donc, pour
déjà
moi, ouais.
Ok.
À peu près, ouais, je pense. Bon, ça devait être,
le temps passe,
en février,
comme ça,
c'est possible, mais ouais. Ça va vite. Hein. Et effectivement, par contre, je suis d'accord que, par contre, il y a beaucoup de portages maintenant de jeux de société sur iPad qui sont globalement quand même de qualité.
Ouais.
Et ce qui fait que c'est dur de faire son choix. Et surtout, c'est pas tant les prix, mais le temps. Après,
oui,
qui fait qu'on n'a pas le temps de jouer à tout, effectivement. Donc pour moi, pour un premier portage par l'éditeur Illately, c'est très prometteur. Je suis très impatient de voir leur Saint-Pétersbourg qui doit arriver dans les prochaines semaines.
Tu veux dire avant la fin du mois?
Avant la fin de novembre, normalement, il leur reste 5 jours. Mais même sinon, même s'ils le sortent en décembre, je suis quand même curieux de... Enfin, je suis impatient, en fait, carrément, de voir comment ils ont réussi le portage. Voilà, sinon, je pense que je vais l'acheter pour y jouer en famille. Parce que c'est un jeu qui s'y prête bien. Je pense que j'en ai pas dans le format familial qui soit aussi facile d'accès en
c'est
jeu
vraiment
de...
familial.
Il est un peu abstrait quand même. Hein. On est d'accord. Je l'ai bien dit.
Un peu abstrait.
Plus qu'un peu quand même.
Oui, mais quand je dis familial, c'est que je suis quand même capable de jouer avec mes enfants. Oui. Et ça va les amener à un nouveau style de jeu.
Votre famille, pareil. Pas forcément. La famille de Jérémy, oui. Faut toujours replacer ça dans son contexte.
Ah
parce
bah
que sinon,
oui, mais bien sûr, évidemment. Je parlais vraiment purement subjectif. Non, mais je pense que c'est des jeux de pause comme ça, une majorité aussi simple. Mm. Il n'y en a peut-être pas beaucoup.
Je pense que c'est sa grande force.
Ouais. Et ouais, et du coup, bah voilà, c'est bien. Je vais pas mettre mes enfants à Euphrate et Tigris tout de suite. D'autant qu'il y a d'autres notions dans Euphrate et Tigris qui sont un peu plus complexes. Donc c'est celui-là. Non, pour l'instant, il est sur ma liste de futurs achats. Voilà, donc Keen, c'est un jeu de Rainer Knizia pour 2 à 4 joueurs. Chez Pegasus, mais c'est peut-être chez Egert en fait, qui arrivera en français chez Gigamic au printemps 2013. Du coup, je pourrais pas vous dire le prix et la durée, c'est entre 30 et 45 minutes en version plateau. Et si vous êtes tout seul sur iPad, en 10 minutes, vous avez fait la partie. Voilà, maintenant tu peux.
Et maintenant.
Raconter n'importe quoi.
Maintenant, Thomas va nous parler de Myrmès sur boîte à jeux.
Thomas, il va aller se coucher.
Ok, donc juste pour signaler que Myrmès est sorti sur boîte à jeux.
On l'a déjà dit, je crois.
Il y a la version solo qui est sortie sur boîte à jeux.
Ah, c'est le concept du jeu en ligne.
Non, mais solo.
En solo.
Dans le jeu de société, un jeu
ça,
de vidéo.
Ça, il fallait le lire dans, dans la face A, parce que ça, c'était voilà. Plus intéressant.
En fait, on a parlé dans la voiture en venant et j'ai oublié de le placer.
On avait déjà dit qu'il fallait brancher le micro avant.
Dans la voiture.
Dans la voiture.
C'est vrai que quand vous avez parlé de Listerimag, on aurait pu glisser un mot sur la version solo qui a été implémentée. Mais en plus, il faut un compte premium, c'est vraiment un truc particulier.
Mais ça, c'était la semaine dernière déjà.
Merde.
Bon, bah voilà, donc on était censé faire... Vous parlez une heure par semaine.
Non, mais on avait invité Thomas, on savait qu'on allait parler des jeux de train, de plein de choses.
Ouais, mais là on est quand même plus proche des deux heures que de l'heure.
Et ben on fera deux phases B. Enfin, une phase B,
on va
une
jamais
B2.
S'en sortir. Au secours, au
une
secours.
Une déprime.
Une déprime, ouais.
Et ça sera déprime, ouais, au bout d'un moment. Et surtout plus d'une insomnie.
Bon, bah écoutez, soutenez-nous, mettez-nous des commentaires pour nous dire que vous aimez ce qu'on fait, parce que là, j'en peux plus. Envoyez-nous de la bière.
Et
aussi,
si Thomas vous a plu aussi,
oui,
il peut revenir.
Profitons-en
pour voir qu'il est à côté de chez nous.
Parce que les prochaines fois, ça pourrait être par Skype. Donc,
Mais on aura le plaisir de le retrouver à la Triche le 14 janvier.
Voilà, donc je vous rappelle, le 14 janvier, c'est un live à la Triche. Vous pouvez venir si vous êtes lyonnais, si vous êtes de passage à Lyon, même si vous n'êtes pas lyonnais, vous pouvez venir quand même. Si vous n'êtes pas bénévole, vous pouvez venir quand même. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a 50 places. Faites-nous un petit mail, un petit tweet, n'importe quoi pour nous dire que vous avez envie de venir et puis on vous réservera une place. Si vous avez des commentaires à faire sur ce qu'on s'est dit ce soir, ben n'hésitez pas. Si vous voulez plus de dossiers, n'hésitez pas. Dites-nous ce que vous avez.
Plein de temps disponible pour ça. Ça tombe vraiment bien.
C'est pas ça. On vous trouvera. On trouvera la façon de vous faire les dossiers. On a toujours un dossier Gateway Game.
Oh, on a un Gateway Game, un Ragnar Vizia, un Wargame. Il y a des dossiers qui traînent, vous savez.
Un jour. Ouais, le train c'est fait. On va finir par faire des dossiers toutes les.
Les trains c'était pas prévu.
Tous les 3 jours, 3-4 jours quoi.
Ouais, c'est ça.
On va enregistrer 2-3 heures toutes les semaines bientôt. Ouais, et puis. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, jouez bien.